tramp the open moorland in the rainy April weather, and came upon the little inn that we had found together. The landlord gave us toast and tea and stopped to share a joke.
En cette fin d'année 2024, le média en ligne Brut et le journal La Croix ont lancé conjointement leur projet Faut qu'on parle. Leur objectif, restaurer un dialogue social et politique entre les gens dans une société qui serait, selon les deux médias, de plus en plus polarisée. Dans l'introduction de leur vidéo de présentation de l'initiative, les journalistes rappellent deux chiffres assez significatifs. D'abord que 77% des Français considéreraient que la société est divisée, mais aussi que plus d'un Français sur deux estimerait ces différences irréconciliables avec celles des autres pour continuer à avancer ensemble. Ce processus de crise de nos démocraties représentatives porte un nom qui qualifie une peur présente sur toute la palette politique, celui de polarisation ou de fragmentation du débat public. La polarisation désigne la façon dont la vie politique et avec elle la société se scindrait en plusieurs groupes, opposition de plus en plus extrême et antagoniste, et qui tendrait à ostraciser, humilier ou diaboliser leur adversaire. Les résultats des législatives en France, avec les trois blocs de l'Assemblée nationale, illustreraient tout à fait ce processus. Le bloc sociodémocrate, le bloc libéral, le bloc nationaliste identitaire, considérant souvent le dialogue avec les autres impossible ou simplement inutile. Cette polarisation serait de plus en plus vécue et revendiquée dans notre vie affective, puisque tous les domaines de notre vie semblent liés à des choix de nature politique. Dois-je continuer à être ami avec quelqu'un qui ne partage pas mes valeurs? Ai-je envie de rencarder une personne qui ne fait pas les mêmes choix de consommation que moi? Est-ce que les repas de famille avec ma tante raciste ou avec mon cousin incel sont obligatoires? Comment arriver à parler à un ou une proche quand cette personne ne semble plus rien partager avec moi? Ce type d'interrogation semble révélateur, en première analyse, d'un certain manque de mixité, d'un certain manque d'écoute, d'un certain manque de coopération et d'un certain manque de rationalité tout court au sein du débat public. Certains conservateurs se plaignent des espaces en non-mixité qui traduiraient selon eux un prétendu séparatisme de la part de certains groupes sociaux. D'autres observateurs pointeront le poids de la sphère médiatique, possédée par quelques actionnaires et milliardaires qui peuvent influencer, construire et confirmer à leur gré notre vision du monde. La façon dont un média ou les réseaux sociaux avec leurs algorithmes sont construits font écho avec nos croyances, viennent confirmer nos biais de pensée et ne font que stimuler nos affects et non notre capacité critique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la chambre d'écho. L'idée d'établir ou de rétablir le dialogue, comme veulent le faire Brut et Lacroix, entre plusieurs individus ou groupes d'individus aux positions divergentes, vise souvent à terme à faire réémerger le commun, des terrains d'entente, des consensus, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intérêt général. Il s'agit de recréer des espaces ou des sphères par lesquelles la société pourrait construire et élaborer des consensus ou s'accorder sur des projets d'intérêt public. Ces espaces de discussion visant à l'intérêt général portent un nom, les espaces publics. Par espace public, on désigne en général deux choses. En géographie et en urbanisme, l'espace public désigne les lieux publics, ces espaces en principe accessibles à tous et à toutes, dans lesquels chacun et chacune peut circuler, voire se rassembler librement, ou bien qui appartiennent à la collectivité à des fins d'ordre public. Il s'agit de l'espace public physique, géographique, souvent institutionnel, celui que l'on peut localiser et borner. La rue, l'école, la place du village, etc. Par extension, l'espace public renvoie aussi, et c'est son deuxième sens, à la sphère publique, c'est-à-dire à la sphère médiatique, culturelle, où circulent et où s'échangent les informations, les idées, les valeurs d'une société. L'espace public est alors l'espace où chacun peut s'exprimer, débattre, échanger. Les médias et les réseaux sociaux constituent une forme de sphère publique, tout comme les salons, les cafés, l'école, les lieux culturels ou de rencontres peuvent aussi constituer cette sphère. Souvent donc, notre imaginaire confond les deux définitions de l'espace public, l'espace partagé, commun, le lieu public, et l'espace d'échange, de débat politique. Qu'on pense à la démocratie athénienne directe et à son agora situé en son centre, où tous les citoyens pouvaient voter à main levée, ou au forum romain, à la cour du roi et à la place du village au Moyen-Âge, au boudoir et salon bourgeois du siècle des Lumières, chacun ou chacune a son exemple idéalisé d'espace public, comme lieu physique où les gens ne font pas que se croiser, mais exercent collectivement leur jugement et leur rationalité pour établir ce qu'on appelle une opinion publique, qui traduirait donc l'intérêt général. Pourtant, le lieu public et la sphère publique ne sont pas si souvent joints ensemble dans notre expérience quotidienne. Ces deux concepts sont loin d'être équivalents. La plupart du temps, nous faisons un usage individuel privé des espaces publics, par exemple pour aller d'un point A à un point B, au travail, à son domicile, dans un magasin, etc., et non un usage collectif et politique centré sur la délibération, l'échange et le dialogue. Seul Socrate pourrait peut-être se targuer de discuter sans cesse dans la rue et avec tout le monde, au risque évident d'importuner certains de ses interlocuteurs. Pour autant, ces deux définitions de l'espace public sont liées étroitement l'une à l'autre, et c'est aussi parce que nous vivons dans des sociétés où nos espaces de prise de parole publique sont dématérialisés que nous pensons moins à la rue ou au café comme des espaces d'échange. De plus, on peut soutenir que c'est précisément parce que nous partageons ou avons partagé des lieux publics dans lesquels nous circulons et nous nous croisons les uns les autres, mais aussi parce que nous avons obtenu le droit de nous rassembler, voire de manifester dans un même espace, qu'une conscience politique, la conscience de partager un même destin, et celle du devoir du gouvernement de nous entendre, a pu émerger. De sorte que l'on ne peut pas parler du lieu public sans parler également de la sphère publique, et vice-versa, puisque les deux se conditionnent réciproquement. Je pense qu'il faut néanmoins toujours bien distinguer l'espace public comme lieu public, matériel, géographique, et l'espace public comme espace idéal de la politique, de la société, de la délibération et du débat. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord et surtout m'intéresser au second avant de parler du premier. À quoi correspond cet idéal politique de la sphère publique, de la sphère d'échange, de débat ? Les philosophes Immanuel Kant et Hannah Arendt peuvent ici nous éclairer. Dans son ouvrage « Qu'est-ce que les Lumières ?», qui date de 1784, Kant définit ce qui caractérise selon lui les Lumières, en allemand « Aufklärung ». Le mouvement philosophique, littéraire et intellectuel courant de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle et qui a contribué au principe du libéralisme, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'abolition des privilèges lors de la Révolution française. Ce qui caractérise l'esprit des Lumières selon Kant est un usage public et autonome de la raison, c'est-à-dire l'exercice d'un jugement critique, personnel, affranchi de l'autorité politique et de l'influence d'autrui de manière générale. C'est-à-dire, à l'époque, surtout affranchi du roi ou de l'empereur, autant que du prêtre ou du directeur de conscience. Oser penser par soi-même, sans être sous la tutelle de la pensée d'un autre, est l'idéal des Lumières. Dès lors, l'usage public de la raison renvoie au fait d'affûter son propre jugement par le débat d'idées. Cet usage public de la raison peut être critique sans, pour Kant, inciter à la désobéissance. En tant que citoyen, je peux par exemple m'insurger de l'illégitimité de certains impôts ou de leur montant exorbitant, ce qui ne veut pas dire pour Kant que je dois me mettre à désobéir en ne les payant plus. L'usage public se distingue alors de l'usage privé, selon lui. L'usage privé de la raison désigne l'exécution des tâches qui m'ont été confiées. Payer ses impôts, aller au travail, s'occuper de son foyer font partie de ces tâches. Mais si l'homme est souvent amené à devoir obéir et exécuter des tâches, à devoir faire un usage privé de sa raison, il ne faudrait pas pour autant qu'il cesse de questionner ses raisons d'obéir, les finalités de sa société, bref, de faire un usage public de sa raison. Pour Hannah Arendt, qui reprend à son compte cette idée de Kant dans son livre de 1958 « La condition de l'homme moderne », l'espace public, l'espace politique qui permet aux hommes de discuter, de se rassembler et éventuellement d'agir ensemble, de questionner la direction dans laquelle va notre société, est un espace qui permet à l'homme de s'arracher à la sphère du travail, du salariat, où celui-ci va répéter inlassablement les mêmes actions aliénantes. Bref, il s'agit de s'arracher à la sphère vitale, animale des besoins naturels. On travaille pour produire et nous produisons pour consommer afin de nous maintenir en vie. Ce qu'Arendt appelle l'homo faber, l'homme fabricant, artisan, producteur, et ce qu'elle appelle l'animal laborans, l'animal qui vit et est soumis aux besoins de manger, de boire, de dormir, travaille soit à embellir le monde, soit à produire des choses utiles, soit à répondre à nos besoins vitaux, naturels, immédiats. Ces deux parts de notre humanité, l'animal laborans, l'homo faber, sont promptes à penser que l'animal politique en nous, qui parle, qui échange, qui réfléchit avec les autres hommes, est un animal futile, inutile, inessentiel. Je cite Arendt, « L'homo faber et l'animal laborans sont donc, à proprement parler, apolitiques. Ils inclinent à traiter la parole et l'action d'occupations oiseuses, de bavardages, d'agitations stériles. » Pour Arendt, pourtant, une société où nous ne serions que des exécutants, qui accomplissons notre travail pour avoir notre salaire et pour continuer à vivre, une société dépolitisée, où l'on ne réfléchit plus aux finalités visées, court le risque du totalitarisme. Chacune et chacun se repliant sur son foyer privé, sur ses préoccupations matérielles immédiates, plus personne ne se soucie dès lors du sens réel, de la portée générale de son travail. Le phénomène des bullshit jobs, ces emplois inutiles et insensés qu'occupent une partie des salariés contemporains, va dans ce sens d'une exécution détachée d'un sens politique général accordé à nos actions. Plus profondément, c'est notre humanité elle-même qui est en jeu pour Arendt. En s'arrachant à ses considérations privées, l'homme exerce ce qui fait proprement son humanité. Pour Arendt comme pour Kant, la capacité de l'homme à raisonner, c'est sa capacité à se mettre à la place des autres, à penser avec eux, en fonction d'eux, en pensant à eux, sans penser comme eux, à trouver des accords par le dialogue. Dès lors, qu'est-ce qui menace l'espace public, cet exercice public de la raison, de la délibération, du dialogue? Il y a certes la polarisation du débat, les réseaux sociaux, les algorithmes, c'est vrai. Avec ça, il y a aussi l'individualisme, le repli sur son travail et sur sa sphère privée, avec le risque de tomber dans un apolitisme revendiqué, en bref, l'absence pure et simple de prise de position publique, qui est aussi une menace pour l'existence de la sphère publique d'échange. Si nous poussons plus loin, le fait que la politique joue à des échelles plus grandes peut aussi contribuer à renforcer ce repli sur soi. Comment se sentir concerné par des prises de décision qui semblent lointaines et non locales, bref, qui ne semblent pas nous concerner directement. Et plus profondément, plus les échelles sont larges, plus le point de vue du citoyen semble limité, et donc le citoyen incompétent. Peut-on être compétent aujourd'hui à prendre des décisions dans les domaines économiques, culturels, médicaux, écologiques, sans compétences durement acquises dans ces domaines ? Ce scepticisme vis-à-vis de la compétence du citoyen peut conduire au raisonnement selon lequel le gouvernement ne devrait pas consulter la société civile, mais seulement des experts de chaque domaine. C'est l'idéal qu'on appelle technocratique ou épistocratique, le gouvernement des experts, le gouvernement de ceux qui savent. Dans les années 30, une partie du courant du néolibéralisme s'est fondée sur cet idéal d'autorité, notamment en matière économique, en cultivant donc un certain mépris pour la démocratie et la notion d'espace public ou de citoyen éclairé et critique. Un des grands inspirateurs du courant du néolibéralisme est le journaliste et politologue Walter Lippmann. Ce dernier considère dans son ouvrage « Le public fantôme », publié en 1925, que la constitution de la sphère publique, d'un consensus démocratique et au-delà l'idéal d'un citoyen qui serait compétent ou même seulement suffisamment rationnel pour juger des questions politiques, sont des illusions à déconstruire. Le début du XXe siècle est marqué de manière générale par la prise de conscience des effets de la mondialisation et donc d'une complexification croissante de la politique et des échelles auxquelles elle se joue. Si Aristote et les Grecs pouvaient vanter la démocratie directe sur la place publique, cela tenait au fait que la cité d'Athènes était une toute petite unité politique et que le nombre de citoyens était suffisamment réduit. Mais nos sociétés contemporaines sont prises dans ce que Lippmann appelle la grande société, où aucun acteur ne dispose de toutes les compétences pour bien juger, et certainement pas le citoyen moyen. Dès lors, on ne peut pas davantage espérer qu'un public se mette magiquement en accord pour faire émerger une seule opinion publique, une seule volonté générale, qu'on passe, pour reprendre les mots de Lippmann, de la grande société à la grande communauté. La solution assez précaire de Lippmann consiste donc à s'en remettre à une démocratie représentative comme les nôtres, mais qui soit la plus transparente possible. C'est-à-dire donner aux différents groupes qui composent la société des critères très généraux, des signes faciles à comprendre pour identifier et élire les représentants les plus vertueux, les moins partisans et les plus à même de justifier leurs décisions. Je cite Lippmann, « Les signes fonctionnent lorsque, dans une controverse, ils permettent d'établir par des tests robustes, simples et objectifs, lequel des deux parties en présence défend une règle sociale utilisable, critique une règle impossible à mettre en œuvre ou en propose une nouvelle, plus prometteuse. En d'autres termes, le public doit seulement apprendre à reconnaître et à s'aligner derrière les meilleurs représentants. La question fondamentale derrière la possibilité ou non de la constitution de l'espace public est donc la suivante. La démocratie aujourd'hui peut-elle encore reposer sur une sphère publique qui vient critiquer, servir de contrepoids au gouvernement ? Ou bien ne peut-elle être que ce gouvernement du moins pire, parce que cet espace public d'échange, critique, constructif et fédérateur, n'existe pas ou n'existe plus. L'espace public est, d'une certaine manière, toujours un idéal et une reconstruction historique. Cela signifie-t-il pour autant qu'il faille abandonner cet idéal ? Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur cette notion d'espace public, son utilité mais aussi ses faiblesses, ses impensés, et sur quelques idées pour le faire émerger. Les pistes que je propose sont seulement, encore et toujours, des éléments de réflexion, et non l'aboutissement de plusieurs années de recherche avec des solutions clés en main. Vous écoutez les Va-nu-pieds, et aujourd'hui nous allons parler de l'espace public. Dans les années 1960, le philosophe Jürgen Habermas publie un travail universitaire d'habilitation à diriger des recherches qui s'intitule « L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ». Dans cet ouvrage, au nom quelque peu rébarbatif, le philosophe retrace la formation historique d'un espace public au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe à travers le rassemblement et le dialogue dans les cafés, les salons, mais aussi à travers les échanges de lettres entre intellectuels et le développement de la presse écrite. Pour Habermas, l'espace public permet à la bourgeoisie dans notre société de devenir consciente d'elle-même et de se former une opinion publique, d'établir des formes de consensus sur des questions telles que la liberté, l'égalité ou la nature humaine, pour servir de contre-pouvoir aux monarchies absolues. L'espace public est alors un espace discursif, délibératif, qui fait émerger un corps unifié de revendications politiques admises par tous ceux qui s'y trouvent, comme l'agora grecque ou le forum romain l'auraient permis à leur époque. Grâce à l'espace public, la société peut se distinguer nettement de l'État, du gouvernement, et réclamer une plus grande liberté d'expression, c'est-à-dire moins de censure, mais aussi un plus grand contrôle sur les actions du gouvernement, une plus grande part dans les prises de décision. Nous l'avons dit, c'est par exemple à ce moment-là que Kant distingue l'usage privé de la raison, qui sert à l'exercice de ses fonctions, et l'usage public de la raison, qui sert à critiquer et discuter les fins que se donne notre société. L'émergence de l'espace public rend l'État de plus en plus responsable devant ses administrés, et il doit alors leur rendre des comptes. Et cela s'opposerait, selon Habermas, à une tradition jusque-là secrète du pouvoir, où les décisions et les délibérations politiques, celles du roi notamment, restaient relativement opaques, fermées. Cette fonction critique de contrôle exercée par le corps social bourgeois se développe tout le long du XVIIIe siècle, jusqu'à parfois faire éclater les monarchies, comme en France. L'institution d'un corps législatif, comme l'Assemblée nationale, qui délibère et décide des lois et des orientations de notre société et peut censurer le pouvoir exécutif, le gouvernement, se pense exactement sur le modèle espace public versus gouvernement. Le corps législatif est censé représenter la volonté du peuple, l'opinion publique, et le gouvernement est censé se plier, exécuter, administrer, se conformer à cette volonté. Pour parler en métaphore, si le législatif manifeste la volonté du peuple, l'exécutif et le judiciaire représentent les bras armés de cette volonté, les instruments de cette volonté. Il est à noter qu'une monarchie peut donc théoriquement représenter les intérêts du peuple, être républicaine. La question n'est pas de savoir qui gouverne, mais qui décide. Un monarque pourrait, en théorie, agir en fonction d'une décision prise de manière populaire, consensuelle. Dans son ouvrage « Du contrat social », au livre 3, chapitre 1, le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau écrit en 1762 que l'État républicain, c'est-à-dire l'État du bien commun, du bien public, peut en soi tout autant prendre la forme d'une monarchie, d'une démocratie ou d'une aristocratie. Ce qui compte, c'est que ce gouvernement soit administré par des lois qui expriment la volonté générale, la volonté du peuple. Comment parvenir à cette volonté générale, cette volonté qui exprime l'intérêt commun? Pour Rousseau, il s'agit de transformer la loi en contrainte universelle qui permet à chacun et chacune de juger de ce qui est bon à la fois pour soi-même et pour les autres, sans être aveuglé par son seul intérêt personnel. Par exemple, il serait absurde que je veuille faire passer une loi qui m'autorise à voler ou à tuer mon voisin si je sais que cette loi s'applique à moi-même également, et donc que mon voisin risque de m'assassiner ou de me voler. Le mieux pour chacun et pour tous étant de ne pas être volé, cette contrainte peut devenir une loi qui stipule l'interdiction du vol pour tous. De même, je peux accepter l'impôt dans la mesure où l'impôt est le même pour tous, c'est-à-dire un pourcentage fixe sur son revenu par exemple, et que ce prélèvement me sert autant à moi qu'aux autres. La volonté générale, c'est ce qui apparaît au terme d'une discussion où chacun pourra discuter à part égale en distinguant ce qui relève de son intérêt privé de ce qui relève de l'intérêt commun. Pour le dire encore autrement, la volonté générale est ce qui reste lorsque l'on supprime les désirs d'exemption et de privilège, lorsque personne ne cherche à être favorisé ou à être exempté de la loi. C'est parce que tout le peuple statue sur tout le peuple, parce que les décisions prises collectivement s'appliquent à tout le monde, que chacun peut juger le plus justement selon Rousseau. C'est la version la plus idéale de ce que serait un espace public, l'espace qui permet de faire émerger le bien commun. Dans son livre, Habermas a une vision plus historique et donc aussi plus située de l'espace public. Il dit d'entrée de jeu que l'espace public dont il parle est un espace limité qui exprime un intérêt commun mais très partiel, un intérêt qui reste représentatif d'une portion donnée de la société, à savoir la bourgeoisie, qui a accès aux salons, aux cafés et à la presse écrite. Néanmoins, il dresse des caractères idéaux de l'espace public à partir de cette situation réelle, et son modèle est très proche du modèle de la volonté générale de Rousseau sur certains aspects. L'espace public est d'abord un espace horizontal, c'est-à-dire à la fois séparé de l'État, mixte et accessible à tous. Il est anarchique sur son modèle, chacun peut participer à la discussion comme si, je dis bien comme si, il était l'égal de l'autre. De plus, l'espace public est un espace de libre expression, tout peut y être exprimé sans censure. Et enfin, il vise à l'universel, l'intérêt privé n'y a pas sa place. Pour Habermas, Cet idéal de l'espace public dans les espaces publics de la bourgeoisie ne s'est jamais totalement réalisé, notamment parce que le libre accès n'y était pas total. Par exemple, les femmes en étaient exclues. Et surtout, parce qu'il a ensuite décliné avec l'émergence d'une démocratie de masse, des médias d'influence et la prise de conscience de la lutte des classes. Parce que la société s'est fragmentée en une pluralité, en une multitude de groupes d'espaces publics avec un S ayant des intérêts concurrents pour Habermas, c'est-à-dire par exemple les hommes, les femmes, les bourgeois, les prolétaires, les ouvriers, les paysans, les artisans, les personnes racisées, les minorités sexuelles et de genre, etc., etc. Parce que la société s'est fragmentée en ses multiples groupes, l'idéal d'un espace public global faisant émerger un intérêt convergent, un bien commun à tous, paraît plus difficile à atteindre. Mais formellement, Habermas dit que ce modèle conçu par la bourgeoisie pourrait toujours être un modèle idéal à suivre en l'adaptant seulement aux exigences du temps. En bref, sur le principe, les femmes autant que les classes populaires pourraient avoir droit à la parole et à la revendication dans cet espace public. What would a mother not do for her child? What lengths would a mother not go? There's a bond that exists between mother and child with no end to how strong it can grow. It's a promise for life between mother and child. It begins from the moment of birth and you're shaken to your soul. Ainsi, dans son livre L'intégration républicaine, Habermas essaie de proposer un modèle d'espace public dans lequel chacun et chacune puisse effectivement être intégré au débat public. Il met ainsi en avant le fait que l'égalité devant la loi, le fait que nous soyons tous et toutes soumis à la même loi de la même manière, est une manière insuffisante de proclamer l'égalité qui ne tient pas suffisamment compte des situations réelles. L'accès des femmes au monde du travail, par exemple, ne suffit pas à résoudre les inégalités salariales ou les inégalités de conditions de vie entre hommes et femmes. La question de la maternité est intéressante car elle est ambiguë. Puisque c'était les femmes qui étaient amenées à s'occuper des enfants, leur accès à l'emploi mais aussi leurs conditions de vie étaient donc moins bonnes. Habermas pointe alors que les femmes ont obtenu progressivement la reconnaissance d'un congé maternité d'abord, puis l'indemnité sur leur salaire, qui s'est généralisée seulement progressivement à toutes les femmes salariées. Ainsi, dans l'espace public, la différence et le statut des sujets qui s'expriment peuvent être prises en compte pour faire émerger des décisions qui puissent s'adapter à leur situation sociale spécifique. Ici, on prend en compte la question de la maternité pour les femmes. Dans le même temps, Habermas montre également que de telles mesures participent paradoxalement à la normalisation de certains stéréotypes sexistes. Ainsi, les inégalités de durée entre le congé maternité et le congé paternité, souvent justifiées au nom de la santé des femmes, peuvent aussi nuire à la pratique d'une parenté égalitaire où les pères assument autant de tâches parentales que les mères, à l'exception de l'allaitement, en enfermant ainsi les femmes dans un rôle naturel de mère. De même, le congé maternité lui-même a produit des effets pervers de discrimination à l'embauche qui, encore aujourd'hui, ne sont pas totalement enrayés, bien qu'ils soient évidemment illégaux. Pour Habermas, pour que chaque citoyen et citoyenne puisse atteindre l'autonomie matérielle, il faut en même temps que ces citoyens puissent avoir accès à des compensations ou des lois qui luttent contre les inégalités sociales et les discriminations qu'ils subissent. Seulement, ces inégalités ne peuvent être entendues que lorsque les sujets peuvent, je le cite, les articuler et les justifier dans le cadre de débats publics. Comme il le dit lui-même, les citoyens doivent être en mesure d'activer leur autonomie civique, c'est-à-dire d'avoir un accès égal à un espace public de délibération, d'échange, de prise de décision, pour pouvoir espérer atteindre l'autonomie matérielle, l'autonomie de droit. Pour autant, ce modèle proposé par Habermas, inspiré de l'espace public bourgeois et qui voudrait un espace public unique, égalitaire, rationnel, horizontal, où tout le monde pourrait délibérer de manière égale et convenir du bien commun, pose beaucoup de problèmes. Historiquement déjà, l'espace public s'est autant constitué par des inclusions, c'est-à-dire des gens qui y étaient admis, tolérés et surtout écoutés, que par des exclusions. Par exemple, il est très souvent rappelé que la citoyenneté chez les Grecs était un statut réservé aux hommes libres, qui excluait dès lors de la sphère publique institutionnelle les femmes, les esclaves et les métèques, c'est-à-dire les étrangers. D'une certaine manière, Habermas considère ces exclusions comme de simples accidents de l'histoire qu'il faudrait réparer pour intégrer tout le monde dans un seul et même espace de débat. Et non, en fait, comme une critique de l'espace public en soi. dans un article intitulé « Repenser l'espace public », la philosophe féministe Nancy Fraser s'appuie sur le travail plus récent en histoire qui va parfois jusqu'à montrer que l'espace public repose en fait toujours, par essence, sur des exclusions. Elle insiste sur le fait que la sphère publique bourgeoise était très loin d'être la seule véritable sphère publique au XVIIIe siècle, de même que la sphère publique chez les Grecs ne se limitait en fait pas seulement à la sphère institutionnelle des citoyens masculins. En vérité, les travaux récents montrent, selon elle, bien davantage qu'il y a toujours eu dans nos sociétés une multiplicité d'espaces publics, au pluriel, avec leurs propres normes de discussion, leurs propres valeurs, et qui entraient dès lors parfois en conflit, en lutte d'influence, ou du moins qui n'étaient pas forcément réconciliables.
Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore!
L'historienne Arlette Farge a par exemple reconstitué, dans son ouvrage « Dire et mal dire », une opinion publique populaire et paysanne tout le long du XVIIIe siècle, à partir d'archives de police ou judiciaires. On peut ainsi retracer l'opinion populaire au sujet du roi, qui prend, selon Arlette Farge, l'allure d'un objet familier, quotidien et ambigu, à la fois aimé et détesté, admiré et moqué. Loin d'être une masse dévote et idiote, le peuple constitue lui aussi sa propre opinion publique, sa propre sphère délibérative, mais pour la sphère bourgeoise, si le peuple dit, si le peuple parle, il dit et il parle mal. Tandis que la sphère bourgeoise promeut un espace public de discussion rationnel, qui selon elle doit exclure la dévotion, l'affect, le symbolisme religieux, elle exclut donc de ce champ celles et ceux qui n'ont pas son langage ni ses valeurs. Des historiennes américaines comme Elizabeth Brooks Higginbotham ont montré, selon Fraser, que des espaces publics noirs se formaient aussi, notamment autour des églises, pour y dénoncer le racisme de la société américaine. Or, il aurait été impensable, dans l'esprit d'un certain nombre de philosophes des Lumières, qui étaient assez critiques du pouvoir de l'église, d'imaginer que des églises puissent accueillir une parole politique émancipatrice. Autrement dit, l'espace public bourgeois, en France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, s'est constitué certes comme la sphère critique vis-à-vis du pouvoir arbitraire, despotique, mais aussi comme une sphère qui cherchait à se distinguer et à se légitimer par rapport à d'autres sphères publiques, dans une lutte de pouvoir. C'est-à-dire également contre ces sphères publiques, celles des femmes de la haute société, celles des paysans et paysannes, et celles des Noirs. En un sens, l'émergence de la sphère publique bourgeoise, avec ses idéaux d'unité du corps social, de bien commun, a pu invisibiliser les autres espaces publics qui existaient dans le corps social, et surtout a nié le fait qu'il existait entre ces différents espaces publics des tensions, des rivalités et des relations de domination. Dès lors, toutes les normes de discussion promues par cette sphère, notamment le fait de privilégier la raison ou une certaine manière de parler, bref, une certaine manière d'être en société, peuvent être aussi interprétées comme des instruments d'exclusion. En effet, dans un espace public où nous pourrions tous et toutes en droit prendre la parole de manière égale, il n'empêche pas que les inégalités dans la considération qu'on accorde à la parole d'un tel ou un tel existeraient toujours. Par exemple, les comptages réalisés par des intelligences artificielles dans de nombreux programmes télévisés ont montré que même dans un espace paritaire où formellement les femmes ont autant le droit à la parole que les hommes, les femmes tendent dans les faits à moins parler et surtout on les écoute moins. De même, si les femmes doivent par exemple amener le sujet des agressions sexuelles dans la discussion publique devant les hommes, elles peuvent plus facilement se censurer ou en dire moins. Du point de vue même de la langue, le sociologue Pierre Bourdieu a montré dans son ouvrage « Ce que parler veut dire » publié en 1982 que toutes les manières de parler et de s'approprier le langage ne sont pas considérées de la même façon dans l'espace social. Il existe des hiérarchies de valeurs implicites, ce que Bourdieu nomme un « marché linguistique ». Une même idée, exprimée dans un langage soutenu, aura immensément plus de valeur sur ce marché linguistique qu'exprimée dans un langage identifié comme étant celui des classes populaires. Pour Bourdieu, notre manière de nous comporter, notre façon de parler, de nous tenir, de nous habiller, trahit notre position dans la société, notre classe sociale. C'est ce qu'il appelle l'habitus, un ensemble de façons de faire et d'être qui sont conditionnées par notre appartenance sociale et qui tendent à être reproduites par nos enfants, nos petits-enfants, etc. Dès lors, il est difficile d'imaginer un espace public où, simplement parce qu'on l'a décidé, les inégalités sociales puissent disparaître, dans la mesure même où ces inégalités conditionnent toujours qui nous sommes et comment les autres vont nous considérer. Même avec les meilleures intentions du monde, ce n'est pas parce que je décrète que tout le monde peut parler dans un espace que tout le monde parlera effectivement, et surtout que la parole aura toujours le même poids et la même considération. J'invite donc à nuancer l'usage du concept de polarisation. S'il est vrai qu'il est un phénomène quantifié et que nos sociétés tendent à se polariser à cause des algorithmes des réseaux sociaux, des médias, etc., il ne faut pas non plus oublier que la société en elle-même est déjà polarisée, divisée en plusieurs groupes et individus ayant des intérêts et des représentations divergentes. Ce qu'on appelle la polarisation du débat public est aussi en partie l'effet de la soudaine visibilisation exacerbée de différences qui existaient pourtant déjà au sein de la société. C'est parce que ces effets d'exclusion et de domination et de polarisation ont toujours eu tendance à exister dans le débat public que les espaces publics en non-mixité se sont constitués. Les espaces en non-mixité, de femmes par exemple, ne se sont pas constitués par une haine farouche des hommes, par misandrie, pas plus que les espaces en non-mixité noire ne se sont constitués par haine des personnes blanches. Ces espaces se sont formés précisément pour que puissent émerger des échanges constructifs, une délibération et des revendications en neutralisant un maximum les effets pervers d'invisibilisation qui existent dans les espaces publics neutres et ouverts à tous. C'est souvent grâce à ces espaces que des corps militants constitués ont pu obtenir des droits et prendre conscience des luttes à mener. Par exemple, c'est grâce à la non-mixité qu'ont émergé plus facilement des revendications concernant les violences conjugales. Contrairement à ce que peut tendre à soutenir Habermas, un espace public unitaire où tout le monde participe n'a donc pas forcément une plus grande efficacité pour faire émerger et faire reconnaître des revendications selon Fraser. C'est même plutôt le contraire. L'idéal d'un espace public unifié, tendant vers un bien commun, peut aussi être un artefact idéologique qui sert à blâmer celles et ceux dont on dévalorise déjà la parole, en les accusant de ne pas vouloir faire des compromis et de ne pas vouloir discuter ensemble. Mais que signifie exactement vouloir discuter ensemble si la personne qui est en face nie une part de l'expérience vécue de l'autre ? Que signifie faire des compromis quand les intérêts sont tout simplement opposés ? Doit-on accepter toute discussion publique si les sujets qui sont amenés à la discussion contiennent des éléments de langage caricaturaux, non sourcés, non documentés, comme grand remplacement, théorie du genre, wokisme, refroidissement climatique, etc. Car c'est aussi ce qu'il faut pointer. Ouvrir la discussion à tous et à toutes est insuffisant si les problèmes qui sont portés à la discussion sont portés par une caste qui oriente le débat public. Ainsi que le souligne très bien la journaliste Salomé Sacquet dans Résister, sorti cette année, les éléments de langage et les théories de l'extrême droite, comme wokisme ou théorie du genre ou grand remplacement, ont été constitués en problèmes publics dont il faudrait naturellement discuter et débattre comme s'ils concernaient tout le monde et surtout entraînaient véritablement de graves conséquences pour notre société. On demande ainsi à la gauche comme à la droite de répondre de thématiques comme l'abaya sans se demander à l'origine si ces problèmes méritent vraiment qu'on leur consacre autant de temps. C'est pourquoi, avant même de convoquer l'idée de discuter ensemble de problèmes publics, la question est de savoir quels sont les problèmes publics ? Qu'est-ce qui constitue un problème d'ordre public ? C'est celui qui décide des problèmes à traiter qui occupe une position de force dans l'espace public. Et c'est pourquoi, aux yeux de Fraser, dans l'article que nous avons déjà cité « Repenser l'espace public », une multiplicité de publics, de sphères publiques distinctes et en réseau, sont préférables à un seul et unique espace public où les effets de domination sociale perdurent. Les espaces en non-mixité ont ouvert la possibilité de constituer en problème public des problèmes privés comme la violence conjugale ou le partage des tâches ménagères. C'est ainsi qu'ils ont ensuite pu être portés efficacement vers une audience plus large, un plus grand espace public. Pour Nancy Fraser, il ne faut évidemment pas idéaliser ces sortes de contre-espaces publics, d'espaces publics alternatifs, de femmes, de personnes LGBT, de personnes racisées. Ils peuvent en effet parfois reposer sur une culture de l'exclusion ou du stigmate, en insistant abusivement sur ce qu'on appelle la pureté militante, cet ethos de parfait militant qui n'aurait aucun préjugé ni sexiste, ni homophobe, ni classiste, ni validiste, et j'en passe. En revanche, Si tous ces groupes ne sont pas vertueux, parfaits, et qu'ils tendent de même à marginaliser et exclure certaines voix, ils permettent souvent la formation et la prolifération de contre-discours, de nouveaux concepts. Et ce pluralisme des discours est une bonne chose. Ainsi, il faudrait dans l'idéal penser plutôt la société comme un corps de différentes sphères publiques qui peuvent à certaines occasions réussir à bien communiquer les unes les autres. Un contre-public a une double dimension selon Fraser, je la cite. D'une part, il fonctionne comme des espaces de repli et de regroupement, d'autre part, il fonctionne comme des bases et des terrains d'essai pour des activités d'agitation dirigées vers des publics plus larges. C'est-à-dire que la dimension de repli sur soi sert précisément de base pour ensuite revendiquer de manière plus unie, cohérente et systématique auprès d'un public plus large. Et cette revendication, par exemple la revendication féministe ou LGBT, peut être de nature délibérative, on enclenche un débat public, mais également de l'ordre de la confrontation, du désordre, de la désobéissance. C'est ainsi que ces groupes font ensuite irruption dans les lieux publics, la rue, la place, par exemple lors des manifestations comme la Pride, et se rendent visibles en tant que corps. Ils permettent dès lors, entre autres, de visibiliser dans le débat public global de véritables problèmes d'ordre public, tels que le budget accordé à l'hôpital ou à l'éducation nationale, les violences policières, les discriminations, etc. Notamment parce que ces problèmes, maintenant qu'ils sont visibles, doivent dès lors être débattus et que lors de ces débats, des arguments statistiques, chiffrés, sourcés peuvent émerger. Dans son ouvrage « Le public et ses problèmes », publié en 1927, le philosophe John Dewey estime que le problème clé dont souffrent les espaces publics et la démocratie, déjà à son époque, est le manque de redistribution des connaissances et des sources exactes d'informations sur les conséquences de tel ou tel problème. Il explique notamment que ce qui distingue un problème d'ordre public d'un problème d'ordre privé, c'est bien les conséquences et la portée de ces conséquences, notamment si elles concernent un grand nombre de personnes. Ces conséquences permettent de distinguer un vrai problème public d'un faux problème public, et c'est cette information, à savoir quel problème nous concerne tous, qui doit être transmise le plus largement possible dans l'espace public. Dès lors, tandis qu'on sait, par les chiffres du ministère de l'Intérieur, que ce sont les femmes qui sont le plus victimes des violences conjugales, des viols, et que ces derniers sont très majoritairement impunis, on attend encore que soient produites les sources chiffrées qui montreraient que le sexisme anti-homme est un problème d'ordre public ayant la même portée et la même violence dans la vie des hommes que la misogynie dans celle des femmes. Tandis que l'on sait que l'éducation sexuelle et à la vie affective est souvent déficiente dans les établissements scolaires aujourd'hui, ce qui empêche la transmission de notions aussi importantes que le consentement aux jeunes enfants, on attend encore les sources et les arguments qui permettront de démontrer en quoi la théorie du genre ou la mention de l'existence des personnes LGBT dans les manuels scolaires a des conséquences dramatiques sur la vie des enfants. Cette question de la visibilisation des problèmes d'ordre public est essentielle car c'est elle qui conditionne l'orientation des débats dans la sphère publique. La manifestation ou la grève, même quand elles n'ont pas d'efficacité sur le gouvernement, ont toujours cette efficacité discursive et symbolique, car elles forcent à porter l'attention des médias et de la société dans son ensemble sur des problèmes qu'on voudrait ne pas voir. Une des questions essentielles qui devrait présider à tout débat public est donc, en quoi ce problème est d'intérêt public? C'est pourquoi toute initiative qui tend à le faire est bienvenue. Et c'est là que l'espace public du débat rejoint le lieu public réel. Car pour rendre visible un problème, il faut le matérialiser dans un espace commun, partagé, où il ne pourra plus se dérober au regard. Les initiatives telles que les collages féministes dans la rue sont de cet ordre. Celles qui tendent à vouloir revivifier le débat autour de questions spécifiques dans nos espaces publics, telles que Nuit Debout, allaient aussi dans ce sens. Les occupations plus ou moins informelles, plus ou moins autorisées, comme dans le cas des ZAD, les zones à défendre, sont aussi de ce type. En 1999, non loin du Colisée, plus de 5000 Kurdes se sont installés avec la tolérance de Rome dans des favelas en carton improvisés, en sorte d'espace public, pour soutenir Abdullah Öcalan, leader du Parti des Travailleurs du Kurdistan, condamné à mort par la Turquie cette année-là. À la faveur de cette occupation de l'espace public, des rencontres, des cafés et des espaces de débat avec des intellectuels ont été organisés, ce dans l'objectif de faire entendre, de visibiliser leurs revendications. Cette initiative, qui consistait à créer des espaces publics, à rendre public des problèmes, a inspiré un groupe d'architectes italiens du nom de Stalker, qui, des années 1990 aux années 2010, a produit une série de happenings, d'interventions artistiques soudaines dans l'espace, avec pour but de transformer les espaces privés en espaces publics de discussion autour de difficultés actuelles. L'une de leurs initiatives, nommée Free Bridge Coffee Meantime, consistait à distribuer des cafés gratuitement à des automobilistes qui faisaient la queue devant un pont, le temps que celui-ci s'abaisse à nouveau. Ainsi, ils ont transformé des habitacles privés des automobilistes en espace public, le temps d'un café pour discuter de la politique contemporaine. Toutes ces initiatives rappellent, à mes yeux, qu'il ne faudrait donc pas tant parler d'espace public, mais de publicité, en mettant l'accent sur l'acte, l'événement de rendre public, d'attirer donc l'attention du public et de justifier de l'intérêt d'un problème devant la société en mettant à disposition des informations sourcées et vérifiables. La publicité, c'est l'attitude qui consiste à casser le cours habituel et routinier des existences en faisant émerger soudainement des questions, en attirant l'attention de manière plus ou moins autorisée, attendue, licite. C'est pourquoi le fait que nos lieux publics, comme les parcs, les rues, etc., soient pratiqués de manière individualiste, c'est-à-dire que chacun les traverse uniquement pour y régler ses affaires personnelles, n'est pas en soi une fatalité. On peut penser à un modèle de lieu public qui met à disposition et à la vue de tous et toutes davantage d'informations, davantage de supports, de discussions. L'enjeu de la réduction de la pub dans les lieux publics n'est pas que justifiable d'un point de vue écologique et matériel, mais aussi du point de vue de l'exercice d'une citoyenneté éclairée. Les actions du groupe L214, parce qu'elles consistent à montrer par des images ce qui se passe de manière confidentielle dans un grand nombre d'abattoirs, sont pour certains une simple promotion idéologique et orientée du véganisme. Pour autant, ces images ne prescrivent rien par elles-mêmes, et on peut aussi les voir comme une invitation à la réflexion et au débat sur la souffrance animale et sur comment la réduire. Le véganisme ou le végétarisme n'étant alors qu'une des possibilités parmi d'autres à débattre dans l'éventail. La solution pratique à un problème n'est pas forcément donnée clé en main par une image ou un collage, là n'est pas tellement l'objectif. Mais un problème d'ordre général sur le statut des animaux dans les élevages en France et dans le droit est dès lors visibilisé, mis sur la table de la discussion et ne peut plus être ignoré. Les actions qui visent à rendre publiques les atteintes au droit international commises actuellement par Benjamin Netanyahou sont du même ordre. Dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'une image dans l'espace public ?», publié en 2019, le philosophe Vivien Philizot distingue par un jeu de mots la publicité et la publicité au sens de la pub. L'une consiste à rendre public des questions d'intérêt commun, parfois en désobéissant directement à des grands groupes, en visibilisant des images qu'ils voudraient garder secrètes par exemple. Et l'autre, la pub, est une capture agressive de l'attention publique au profit d'un intérêt privé. C'est pourquoi, même si de nombreux promoteurs privés saturent aujourd'hui l'espace public de pubs, qui permettent souvent de le financer, par exemple le JC Déco qui finance nombre d'abribus, il faut se méfier de cette tendance en ce qu'elle tend à privilégier l'intérêt marchand au détriment de l'intérêt public. De la même façon, les centres commerciaux sont devenus des lieux publics alternatifs pour beaucoup de gens au sein de la population. Seulement, ces lieux disposent souvent d'une police privée qui rend les rassemblements ou les initiatives d'information publique plus compliquées à envisager. Un autre point fort de l'ouvrage de Vivien Philizot, c'est qu'il tend à montrer d'autres manières de créer des espaces publics ou des situations d'échange public dont le support n'est pas prioritairement le langage oral ou écrit. En effet, l'approche de Habermas a une tendance au logocentrisme, c'est-à-dire à la primauté du langage sur d'autres modes de communication publique pourtant réellement efficaces et utiles tels que l'image. Nombre de gens se sont interrogés sur la pratique de consommation de viande, non pas au travers d'un long cours ou d'une discussion houleuse, mais au travers d'une image, dont le choc a suscité une interrogation et seulement ensuite un intérêt pour ces discours alternatifs. Ainsi, les espaces publics se constituent de manière parfois éphémère et rendre public, visibiliser un problème, peut se faire par le langage, mais aussi par une image, un happening artistique, etc. C'est ce caractère événementiel, parfois brutal, mais aussi pluraliste dans ses contenus, ses expressions et dans les intérêts qui sont manifestés, que j'aimerais revaloriser en privilégiant ici le concept de publicité au concept d'espace public. Parce qu'en insistant sur l'acte, on insiste sur le fait que rendre public, informer ou contrecarrer les champs médiatiques s'inscrit toujours dans un rapport de force. On cherche à se faire entendre, à donner du vocabulaire, à faire porter l'écho de nouvelles voix. En insistant sur l'acte, on met en avant le fait que la politique passe par une forme de conflit, et que ce conflit ne peut pas exister seulement dans les sphères institutionnelles de l'Assemblée, ni seulement dans les sphères médiatiques, ni seulement dans les sphères publiques dominantes, mais qu'il peut potentiellement avoir lieu à chaque instant sans qu'on s'y attende. En ce sens, j'essaie aussi modestement par cette émission de rendre public, débattable, des objets et du vocabulaire issus de la philosophie et des sciences sociales. Avec ma perspective située, mes propres biais, mais toujours en essayant de susciter de nouvelles questions ou de fournir de nouvelles sources sur lesquelles s'appuyer. Aujourd'hui, je rappelle que les radios associatives sont toujours sur la sellette lorsque les budgets gouvernementaux sont établis. Or, faire vivre le débat public, c'est aussi soutenir les toutes petites chambres d'écho qui essaient aussi de constituer de nouveaux contre-publics, de nouveaux objets de dialogue et d'échange. Si bien que, comme d'habitude, si l'émission du jour vous a plu, je vous invite à la partager et à suivre l'émission sur les réseaux sociaux. C'était Ben pour les Vanupiés et je vous salue.
Dans les ronces d'un sale monde de France. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui bave, une histoire bien pérave. Une histoire de caf pour un peu on se marave. Une histoire bien pélange, une histoire qu'on enfonce. Une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule.
Hey, tout seul.
Bah putain, voilà, j'en ai marre. Putain, je suis dans ma porte de casse. Tu
lâches ta gueule. Dégage ta gueule. Tu tires, chasse. Hey, putain,
je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule.
Encore une histoire qui crève là sur le trottoir. On se tourne le dos, on crache son dernier glavio. Tous mes amis m'ont dit que c'était moi, mon pire ennemi.
Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul,